Grégoire Froissart, vous êtes prêtre du diocèse de Paris depuis 2010, vous êtes docteur en théologie et vous êtes enseignant au Collège des Bernardins. Et on vous a demandé vous tenez notamment, je crois, le cours sur la Trinité, si je ne m'abuse. Donc on vous a demandé, après une première conférence où c'était un peu plus historiquement l'élaboration de la personne du concept de personne dans les débats trinitaires et christologiques, de parler un peu plus en théologien des personnes divines, ou aussi un petit peu de leur rapport, quel rapport justement avec les personnes humaines. Donc nous vous écoutons.
Merci de votre invitation, c'est bien courageux de vouloir entendre parler d'un thème pareil à cette heure-ci. Donc je ne reviens pas sur ce que vous avez dit la semaine dernière, si j'ai bien compris, donc l'élaboration, en tout cas l'usage du concept de personne chez les pères de l'Église pour dire la foi au Christ et à la Trinité. Et donc vous avez sans doute entendu parler de l'étymologie, je ne crois pas qu'elle soit fantaisiste du mot personne qui voudrait d'abord désigner le masque des acteurs de théâtre, mais il y a quand même toutes sortes d'usages en latin, notamment chez Cicéron, ça désigne l'homme dans tous ses rôles sociaux, juridiques, etc. Alors la question que vous me posez aujourd'hui, c'est d'essayer de montrer comment la notion de personne s'est élaborée, notamment chez les penseurs chrétiens, pour désigner donc la distinction réelle en Dieu, puisque si Dieu est unique, le Père n'est pas le Fils, et l'Esprit n'est ni le Père ni le Fils, et pourtant ils sont un même Dieu. Alors, vous posez aussi la question du lien entre la notion de personne divine et la notion de personne humaine, parce qu'évidemment on se pose la question, mais alors qu'est-ce que ça change qu'on croit qu'il y ait des personnes divines quand on parle de la personne humaine? On s'attend à ce qu'il y ait un rapport. Et c'est vrai que, mais c'est un phénomène, je pense, qui est assez récent, j'ai pas fait l'histoire de la chose, mais parler de l'homme pour désigner sa dignité au moyen du concept de personne, à mon avis, c'est quand même assez récent, en fait. En tout cas, dans les grands auteurs classiques, les pères de l'Église ou les médiévaux, c'est pas du tout une manière de parler. On ne désigne pas l'homme comme une personne, ou alors exceptionnellement, et pas avec une intention comme on le fait aujourd'hui. Donc vous voyez, la question en fait de la notion de personne et de son approfondissement et du rapport entre l'attribution du nom de personne à Dieu et de sa signification pour dire la dignité humaine, il y a à la fois, on pourrait dire, un mouvement ascendant qu'on appelle analogique, c'est-à-dire la notion de personne, on la construit, on l'élabore pour dire quelque chose de créé qui appartient à notre expérience. Et donc, on l'applique à Dieu. Donc, en fait, c'est plutôt même une question. Ça a longtemps été une question. Est-ce que vraiment, quand on parle d'une personne divine, on applique un concept élaboré dans notre expérience à Dieu ou pas? C'est la question de l'analogie. C'est ascendant. Et puis, la deuxième question, c'est une question descendante. Étant donné que Dieu est un mystère de personne, de trois personnes, qu'est-ce que l'idée de personne divine nous dit sur la personne humaine? Là, on pourrait dire, c'est donc une perspective plutôt descendante, ça pourrait dire c'est un regard sapientiel sur l'homme, c'est un regard sur la création du point de vue de Dieu, enfin, en tout cas de ce qu'on peut en comprendre. Donc je ferai les deux choses, donc d'abord la perspective analogique, et puis ensuite la question de la sagesse, du regard sapientiel sur l'homme, la question de savoir comment l'homme participe au mystère de la personnalité divine. Le premier point est très classique, c'est vraiment au cours de dogmatique qu'on peut lire un peu partout. Le deuxième point, encore qu'il faut parfois un peu trier si on veut faire reconstituer le fil, mais la deuxième partie, c'est pas du tout stabilisé, parce que les grandes pensées, notamment scolastiques, n'ont pas élaboré un concept de personne humaine comme on le fait aujourd'hui. Alors, première chose, le premier point, le nom divin de personne. D'abord, bon, comme vous l'avez vu la dernière fois, le mot de personne, il a eu pour but de dire la foi dans la Trinité. Donc très tôt en théologie, on a utilisé ce mot, notamment Tertullien au début du IIIe siècle, qui dit « trois personnes d'une même divinité ». Donc c'est persona en latin. En grec, en général, l'équivalent, c'est hypostase, hypostasis. Mais en fait, au début, la signification des termes est assez flottante, en fait. On veut exprimer avec des concepts, mais la signification est assez flottante. Je prends deux exemples. Par exemple, Sabellius, donc, qui est le représentant principal du modalisme, qui considère qu'il n'y a pas de distinction réelle en Dieu. Il s'accommode très bien de l'idée qu'il y ait trois personnes. Parce que pour lui, c'est un peu l'idée du masque, quoi. C'est le même Dieu qui prend successivement trois rôles dans l'histoire du salut, mais c'est pas une distinction réelle en Dieu. Et puis, à l'inverse, Arius, donc, qui était condamné par le premier concile écuménique à Nicée, il disait qu'il y avait en Dieu, que les personnes divines n'avaient pas la même substance et pas la même ou pas la même essence et pas la même hypostase. Et donc le concile a condamné le fait qu'il y ait plusieurs hypostases en Dieu. Alors qu'en fait, c'était en fait pour condamner la formule d'Arius. Donc il a fallu préciser les termes, c'est ce qu'ont fait les pères cappadociens dans la deuxième moitié du IVe siècle, notamment saint Basile, qui a dit pour résister contre le modalisme, il faut pouvoir distinguer l'essence ou la substance, qui dit l'unité, et l'hypostase. Donc il faut dire qu'il n'y a pas une hypostase, mais trois hypostases. C'est intéressant du point de vue de l'herméneutique du concile, parce qu'en fait, matériellement, il s'est opposé au concile de Nicée, mais c'est quand même sa formule qui a été retenue. Et puis Grégoire de Nazianze, juste après, il reprend la même chose, une ousia, trois hypostases, et il dit que c'est la même chose que le latin personne. Donc vous voyez, à la fin du IVe siècle, l'usage des mots est tout à fait stabilisé, et notamment, ce sera canonisé par le concile de Constantinople II, donc au milieu du VIe siècle, qui désigne Dieu en disant « c'est une seule divinité adorée en trois hypostases ou personnes ». Voilà. Alors, dans les décennies suivantes, en Occident, Augustin, reprenant tout ce dossier, essaye d'en tirer des conclusions et approfondir tout cela du point de vue spéculatif. Et donc, notamment, il approfondit une première notion, une première analogie, qui est l'analogie de la relation. Ça, déjà, les Cappadociens l'avaient vu. Ce qui distingue le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ce sont leurs relations. Et alors, ça l'amène à réfléchir à qu'est-ce que c'est que la relation en Dieu. Chez nous, c'est Aristote qui le dit, la relation est un accident, parce qu'il existe dans une substance qui est l'être au sens propre. Mais en Dieu, puisque tout est substantiel, il n'y a pas d'accident en Dieu. Dieu est parfait, il est la plénitude. Du fait qu'il est, il est sa plénitude, quoi. La relation n'est pas un accident. Voilà. Et donc l'Écriture sainte nous met sur la voie de distinguer les trois par des relations, parce que Père, c'est un nom de relation. Parce que quand il y a un Père, il y a un Fils. Quand il y a un Fils, il y a un Père. Donc voilà ce que dit Augustin. Si être père et être fils, ce n'est pas la même chose, la substance n'est pourtant pas différente entre les deux. Ces appellations n'appartiennent pas à l'ordre de la substance, mais de la relation. Relation qui n'est pas un accident, parce qu'elle est étrangère au changement. Voilà, donc, Augustin approfondit la notion de relation. Et il fait une autre chose très importante, Augustin, mais c'est encore à l'état d'intuition, de recherche, il essaye de fonder les relations sur les processions. Encore, c'est l'Écriture qui nous y invite, nous disant que le Fils est engendré par le Père. Seulement, quand un Père engendre un Fils, dans notre expérience, c'est deux êtres différents. Et donc, en Dieu, il n'y a qu'un seul être. Et donc, il cherche une analogie, et donc il trouve notamment, en réfléchissant sur la manière dont nous pensons, il dit « quand je pense », quand je fais un acte de pensée, je dis intérieurement une parole. Et vous savez, parole ou verbe, c'est un nom que saint Jean attribue au Christ, au Fils. Et donc il dit, voilà, regardez cette procession. Quand je pense, en fait, il y a une procession spirituelle en moi et qui ne se fait pas dans la diversité de substances, parce que c'est toujours moi qui pense. Donc, vous voyez, Augustin va fonder les relations sur cette analogie des processions de notre esprit. Alors, maintenant, s'agissant de la notion de personne. Augustin est un petit peu devant un mur, en fait. Il montre la, il, il arrive seulement au constat d'une difficulté. Pourquoi ? Ben, il dit, ce qui distingue les trois en Dieu, c'est la relation, mais la personne, ça désigne une substance. Donc ça peut pas désigner une relation. Le mot n'est pas fait pour désigner une relation. Alors il est un petit peu dépité et il dit, bon ben, si on utilise ce mot de personne pour dire le propre du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, c'est faute de mieux. C'est parce qu'il faut bien un mot pour répondre à ceux qui disent trois quoi. Alors, il dit, ben, on leur dit trois personnes, mais c'est une pure convention. Oui, c'est là où arrive Augustin. Alors la tradition postérieure n'arrive pas tellement à dépasser pendant longtemps cette difficulté d'Augustin. Alors quand même dans les étapes importantes, peut-être que vous en avez parlé la dernière fois, hein, Boèce, au siècle après, élabore une définition de la personne, donc qui est restée très célèbre, substance individuelle de nature raisonnable. J'y reviendrai. Hein. Substance individuelle de nature raisonnable. Seulement, il l'élabore dans un but christologique, parce qu'il considère que les hérésies christologiques ne distinguent pas assez la nature et la personne, et sa définition permet de distinguer les deux. Mais quand il parle de la Trinité, en fait, il n'utilise pas cette définition. Alors, vous voyez, après, toute la scolastique va se poser la question de savoir s'il y a une analogie, c'est-à-dire si le concept de personne, substance individuelle de nature raisonnable, qui est vraiment le produit de notre raison, qui exprime notre expérience de ce que c'est qu'une personne, un être humain notamment, est-ce que c'est bien en utilisant cette définition qu'on peut désigner en Dieu ce qui est propre au Père, au Fils et à l'Esprit qui les distingue? Et en fait, ça devient une question d'école, mais on y répond avec beaucoup de subtilité qui traduit l'embarras. Dans cette histoire, il y a notamment un moment important, au XIIe siècle, Richard de Saint-Victor, qui constate comme Augustin en fait, que la personne en Dieu désigne manifestement l'essence commune aux trois, la substance, le l'être, si vous voulez. Et donc, il dit, je renonce à toute analogie, et donc je vais former une définition de la personne divine, mais du coup, qui ne vaudra que pour la personne divine. Donc, oui, il y a un abîme infranchissable entre l'idée de la personne issue de notre expérience et l'idée de la personne divine. Il n'y a pas d'analogie. Ça, c'est le point d'arrivée de Richard de Saint-Victor. Alors maintenant, celui qui a montré de manière ferme et absolue, si on peut dire, que la définition de Boèce, quand on l'applique à Dieu, désigne le propre, c'est-à-dire les relations, c'est Thomas d'Aquin. Pour lui, quand on attribue le nom de personne à Dieu, ça désigne pas l'essence commune aux trois personnes, mais ça désigne les trois personnes en vertu de la signification propre de la personne dans notre définition, à savoir substance individuelle de nature raisonnable. Alors Augustin, c'est vraiment pourtant l'héritier d'Augustin dans sa théologie trinitaire. Il reconnaît d'ailleurs tout à fait sa dette à l'égard d'Augustin. Donc comme lui notamment, il considère que les personnes se distinguent proprement par les relations. Ça, depuis Augustin, tout le monde est à peu près d'accord. Et il est tout à fait d'accord notamment avec la formule de saint Anselme, qui sera canonisée plus tard par un concile, qui dit « En Dieu, toutes choses sont une, là où ne se rencontre pas l'opposition d'une relation. » Ce qui veut dire notamment quelque chose de très intéressant, c'est que le Père est distinct du Fils, parce qu'il y a deux relations opposées. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, mais le Père n'est pas différent de l'essence divine commune aux trois. Donc le Père, c'est Dieu, comme le Fils, c'est Dieu. Mais le Fils n'est pas le Père et le Père n'est pas le Fils. Donc là où il n'y a pas l'opposition d'une relation, eh bien, tout est commun. Et donc, le Père et le Fils sont le même Dieu. Et pourtant, le Père n'est pas le Fils. J'allais dire, vous y réfléchirez, mais en fait, vous n'aurez pas d'analogie de ça, parce que c'est propre à Dieu. Comme dit la célèbre formule d'Augustin, si tu comprends Dieu, ce n'est pas Dieu. Et donc, dans la Trinité, comme ça, la Trinité, tu nous as révélé ce qui est vraiment propre à son être, ce qu'on essaye de dire avec nos concepts et notre théologie trinitaire. Le deuxième point où Thomas d'Aquin est l'héritier d'Augustin, c'est qu'il approfondit l'idée des processions spirituelles, qui sont l'analogie qui permet de fonder les oppositions relatives. Et donc c'est lui qui clarifie bien que Augustin, en fait, il découvre que quand je fais un acte de pensée, en fait, je dis un verbe intérieur. Et il dit, en fait, ce que Augustin ne dit pas, mais ce qu'il pense qu'il voulait dire, c'est qu'il en va de même quand j'aime. Quand j'aime quelqu'un, donc quand je pense quelqu'un, ben je le dis sous la forme d'un verbe intérieur, mais quand j'aime quelqu'un, je l'exprime, on pourrait dire, par une sorte d'amour qui on ne va pas dire conçu, parce que ce n'est pas un verbe, mais qui se produit en moi, qui fait exister la personne, mais sous un mode différent du verbe. Voilà. Et donc ces deux processions spirituelles sont l'analogie qui permettent de distinguer de manifester les oppositions relatives et donc les trois personnes. Maintenant, arrivons à notre sujet, la question de la personne. Thomas, lui, donc, il considère que la définition de Boès, substance individuelle de nature raisonnable, si on l'applique à Dieu, ça désigne pas la divinité commune aux trois, mais ça désigne les trois dans ce qu'ils ont de distinct des autres, de chacun distinct des autres. Comment arrive-t-il à ce prodige alors que Augustin et tout le monde avaient dit « Mais non, regardez, la substance ou l'être en Dieu, il est commun, donc personne, ça désigne évidemment d'abord la nature commune aux trois. » Thomas d'Aquin lit bien et dit en fait « Le premier élément de la définition, ce n'est pas substance, c'est individu. Voilà. » Et l'individualité, elle est une notion plus large que la substance, dans certains points de vue, parce qu'un accident, c'est-à-dire ce qui existe dans une substance, par exemple, je suis blanc, enfin, je ne dis pas ça parce que je suis raciste, mais parce que c'est l'exemple que tout le monde prend à l'époque de saint Thomas. Donc, ma blancheur, je vous indiquerai des textes pour me laver de tout soupçon, ma blancheur est singulière, elle est individuelle, en fait. Voilà. Donc vous voyez, la blancheur, l'individualité vaut pour tous les genres d'êtres, notamment pour l'accident, donc la blancheur. Et alors, saint Thomas va dire, ce que montre la définition de Boès, c'est que la personne, c'est le mode suprême de l'individualité. Et pour ça, il procède en deux étapes en disant, regardez, ce qui est plus individuel, c'est pas l'accident, c'est la substance. Pourquoi ? C'est parce que la blancheur est dans moi, substance individuelle, qu'elle est individuelle. C'est ma substance qui individualise ma blancheur. Donc, quand Boès dit substance individuelle, il dit en fait l'individualité, elle est plus forte dans la substance que dans l'accident. Et puis, deuxième étape, Boès dit en fait, l'individualité, elle est davantage dans la substance de nature rationnelle que dans n'importe quelle substance. Et il prend pour argument l'agir libre. Voilà ce que dit saint Thomas. Le particulier et l'individu se rencontrent sous un mode encore plus spécial et parfait que dans la substance, dans les substances raisonnables, qui ont la maîtrise de leurs actes. Elles ne sont pas simplement agies comme les autres, par l'instinct par exemple, elles agissent par elles-mêmes. Et les actions existent dans les singuliers. Donc ça ne veut pas dire que c'est l'acte libre qui est la personne, mais ça veut dire que l'acte libre révèle un mode d'existence qui est suprêmement individuel. Voilà, d'où donc la définition de Boès, individu substantiel de nature raisonnable ou substance individuelle de nature raisonnable. Alors, une fois que vous avez dit ça, eh bien, si vous voulez appliquer le terme « personne » à Dieu, une personne divine, eh bien, ça désigne ce qui est individuel, c'est-à-dire ce qui est distinct des autres et indistinct en soi. Et donc, ça nomme non pas la substance que pourrait penser un juif ou un philosophe, mais un chrétien, du fait de sa foi, il sait qu'en fait, ça nomme pas l'essence commune, ça nomme le Père, le Fils ou le Saint-Esprit. C'est ça, c'est les trois individus en Dieu. Voilà. Donc, puisque c'est la relation qui distingue les personnes, la personne divine distingue une relation. Après, il reste l'objection d'Augustin, qui dit dans notre expérience, une personne, c'est d'abord une substance, c'est pas une relation. On voit pas comment une personne pourrait désigner une relation. Alors c'est là que saint Thomas en fait reprend les principes d'Augustin en fait. Au fond, il s'oppose pas à Augustin, il le prolonge comme toujours. Et en fait, il dit, c'est parce que là, comme je vous disais, Anselme, en Dieu, toutes choses sont une, là où ne se rencontre pas l'opposition d'une relation. Ce qui veut donc dire que, en Dieu, la relation, elle n'est pas distincte de la substance. Et donc, le Père n'est pas différent de Dieu. Le Père est Dieu. Et donc, la relation en Dieu, elle est subsistante. Elle subsiste par elle-même. Parce qu'en Dieu, tout subsiste par soi. Et donc, le Père est Dieu. Et donc, le Père est une personne. Ça lui convient bien. Donc, voilà la célèbre définition de saint Thomas. La personne divine, ça désigne en Dieu la relation en tant qu'elle subsiste. Parce qu'en Dieu, tout subsiste, y compris les relations. Donc, la substance individuelle de nature raisonnable en Dieu, c'est la personne. Enfin, c'est la personne distincte, c'est le Père, le Fils ou le Saint-Esprit. Voilà, alors vous voyez, le terme de personne est utilisé de manière analogique. Et donc, c'est dans l'homme et en Dieu, si vous voulez. La définition qui permet de désigner la personne dans notre expérience de la vie humaine, c'est ça qui vaut pour désigner le propre, la distinction en Dieu. Donc, le moyen qui permet de le faire, c'est la notion d'individu. Mais, et c'est là où c'est important, parce qu'une analogie, comme on dit... Il y a la ressemblance. L'analogie, c'est l'usage de nos mots, de nos concepts pour parler de Dieu. Alors, si on peut parler de Dieu avec nos concepts, c'est parce qu'il y a une ressemblance entre les réalités créées, les perfections créées et Dieu. Mais évidemment, il y a une dissemblance qui, comme dit le Concile de Latran IV, est plus grande encore que la ressemblance. Donc, ce qui ressemble, là, c'est l'individualité. Mais après, le mode d'individualité n'est pas le même. Qu'est-ce qui individualise la personne humaine ? Saint Thomas dit, c'est parce qu'il y a sept âmes, ces os et cette chair. Voilà. Ou cette âme et ce corps, si je simplifie. Mais en Dieu, ce qui individualise, c'est la relation. Et ça, c'est propre à Dieu. Alors ça va être important parce que je ne vais pas faire d'histoire de la philosophie moderne ou de la théologie moderne, mais beaucoup d'auteurs, un petit peu ébouriffés par cette espèce de paradoxe qu'en Dieu, la personne nomme la relation. Ça les a tellement exaltés, en fait, qu'ils disent, mais du coup, en redescendant, maintenant, on va définir la personne, voire même toute créature, comme une relation. Et en fait, saint Thomas dit, non, il ne faut pas faire ça, parce qu'il y a une analogie. Il y a une analogie. Il n'y a qu'en Dieu que la personne nomme la relation. Il n'y a qu'en Dieu que l'individu est une relation. Alors, justement, c'est le deuxième point, la question de la participation de la personne humaine à la personnalité divine. Donc, chez saint Thomas, vous avez bien compris, hein, comme chez les pères de l'Église, le mot « personne », il est surtout utilisé pour dire le mystère de Dieu et du Christ. Et c'est vraiment une habitude beaucoup plus moderne qui consiste à utiliser beaucoup le mot de « personne », au moins en contexte chrétien, pour dire la dignité humaine. Donc, comment est-ce qu'on peut, à partir de ce que j'ai dit sur la personne divine, dire quelque chose de la personne humaine ? Sachant que la notion de personne divine, c'est relation subsistante, mais que dans la créature, pour une raison que je vais dire tout de suite, on ne peut pas identifier purement et simplement la personne à une relation. Alors, je prends d'abord la question de manière générale, métaphysique, c'est-à-dire pas seulement la question de la personne, mais la question de toute créature. Comment est-ce que la créature participe au mystère des personnes divines ? Donc le propre de la théologie de la création, c'est-à-dire du regard religieux sur le monde qui nous entoure, c'est précisément de regarder les choses pas seulement en elles-mêmes, mais justement de voir en quoi elles sont reliées à Dieu. De voir les choses comme des créatures au sens propre, c'est-à-dire comme étant faites par Dieu et faites pour Dieu. Alors, il y a un point important qui n'est pas forcément facile à comprendre toujours, c'est que aucun docteur de l'Église ne va jusqu'à dire que, ayant un regard religieux sur le monde, que la créature s'identifie à sa relation à Dieu. Alors, là où il y a le plus de différence, entre les deux, c'est chez saint Thomas. Pourquoi ? Parce qu'il veut assurer la consistance des réalités créées, il veut assurer la consistance du discours de la raison, et le regard religieux sur le monde ne vient pas contredire la connaissance naturelle que nous avons des choses, mais vient la compléter. Et donc, Thomas dit cette chose qui peut sembler un peu bizarre, c'est que le fait qu'on soit créature, c'est-à-dire qu'il y a une relation en nous à l'égard du créateur, une relation de création, cette relation de création, elle est un accident. C'est-à-dire elle s'ajoute, on voit d'abord la créature en elle-même, comme un être absolu, on pourrait dire, et ensuite on pense sa relation au créateur comme un accident. Alors, Bonaventure, lui qui est beaucoup moins désireux de distinguer les principes de connaissance et d'assurer l'autonomie de la créature par rapport à son créateur, Bonaventure, c'est le contemporain de saint Thomas, le franciscain, il est beaucoup plus désireux de donner un chemin spirituel à la pensée, de donner un regard contemplatif sur le monde. Et alors même lui, en fait, alors il refuse que la relation de création soit un accident. Il dit, si c'est un accident, dans ce cas-là, on pourrait penser le monde comme si Dieu n'existait pas. Donc ça, c'est hors de question. Mais il dit, la relation de création, c'est ce qu'il appelle une relation essentielle, donc qui n'est pas un accident, mais qui quand même s'ajoute à la créature, qui est distinct de la créature. Voilà. Alors, on pourrait se dire, quand même, si on veut identifier la créature à une relation à Dieu, en fait, ça n'existe qu'en Dieu. Parce que Dieu, évidemment, je ne sais pas, mais il fait exister les créatures parce qu'il les conçoit dans sa pensée, et il les fait exister dans son vouloir, en fait. Et donc, il les pense comme ce qui émane de lui, en fait. Mais à part Dieu, qui voit toute chose dans sa propre essence divine, et donc voit toute créature en relation avec lui, à part Dieu, en fait... Il n'y a que pour Dieu que la créature est identique à une relation. Pour nous qui sommes des créatures, c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. Alors, quelle est cette relation ? Là, vraiment, toute la théologie tient que les trois personnes divines, qui sont réellement distinctes, elles ont même opération. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le Père qui fait ceci pour faire le monde, le Christ qui vient s'incarner, l'Esprit Saint. Non. Sinon, ils seraient trois dieux. Et là, ils sont un dieu. Et donc, tout ce qu'ils font, ils le font ensemble. Ils ont même opération. Et donc, vous voyez, la relation de la créature à Dieu, celle qui vient de la création, mais aussi celle qui vient de tout ce que Dieu fait pour nous conserver dans l'être, pour nous transformer par son action... Eh bien, les trois personnes le font de manière absolument unie. Et donc, notre relation à Dieu, elle procède de cette même opération. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne participe pas au mystère de chacune des personnes divines. Pourquoi ? Parce que c'est vraiment l'intention de Dieu que de se manifester dans sa créature. Et donc, il est bien normal que nous ayons des traits qui nous apparentent davantage à l'une des trois personnes divines, mais sans séparation, c'est toujours les trois personnes qui se manifestent et qui agissent en nous. Alors cette participation aux trois personnes divines, il faut revenir à cette très riche théologie inspirée de saint Augustin, qui utilise la vie de notre esprit pour dire les processions en Dieu. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, si nous existons, c'est parce que Dieu a une idée de nous, en fait. C'est qu'il nous a conçus dans son esprit, nous a imaginés, comme un architecte imagine une maison, et puis il a doté cette idée d'affect, en fait. Il l'a fait exister de manière affective en lui aussi, par mode de volonté. Et donc, si, comme le dit saint Augustin, relu et précisé par saint Thomas, le Fils, c'est le Verbe, procède comme le Verbe, qui dit toute la perfection du Père, et que l'Esprit Saint procède comme l'amour, eh bien, ça veut dire que cette petite idée qui est notre préexistence en Dieu, eh bien, elle est la participation du Verbe et de l'amour, en fait. C'est-à-dire que notre idée, en disant le Verbe, Dieu nous dit aussi, en fait. Et donc nous sommes une participation du Verbe, une participation de l'Esprit-Saint. Ça donne donc une grande théologie qui est presque un sport chez certains auteurs. Donc Bonaventure, c'est son sport favori, c'est de décrire la création comme étant portant les vestiges de la Trinité, les traces de la Trinité. Et alors il dit notamment, regardez, donc Saint Thomas, il synthétise tout ça à partir de cette représentation que je viens de vous dire, l'idée que nous sommes, par laquelle nous préexistons en Dieu, en fait, est la participation aux processions du Verbe et de l'Esprit-Saint. Et donc, Saint Thomas, il résume tout ce sport qui consiste à voir les vestiges de la Trinité dans la création à partir de là, en disant, regardez, une créature, un être, il existe par lui-même. Et donc, en cela, il représente celui qui lui confère l'être. Et en Dieu, eh bien, le premier, c'est le Père, le principe sans principe. Donc, le fait que j'existe, pas par un autre, mais par moi-même, d'une certaine manière en tout cas, c'est la représentation de la personne du Père. Ensuite, le fait, parce que les choses qui existent par elles-mêmes, elles ont une certaine espèce, vous voyez, on est tous de la même espèce, on est tous des êtres humains, par exemple. Et donc, l'espèce, eh ben, elle est une manifestation de cet être sous une certaine forme, et ça, c'est la participation du Verbe, parce que le Père, qui est le principe sans principe, il se dit dans un verbe, une parole qui a du sens, en fait. Et donc, bah, l'être, il a du sens, il s'exprime selon une certaine forme, un homme, un arbre, un chien, ou ce que vous voulez. Et puis, c'est ce même être qui existe par lui-même, qui est une certaine espèce, eh ben, il a une inclination, il est ordonné à quelque chose d'autre. Alors, il est ordonné d'abord à Dieu, parce que Dieu a tout fait pour manifester sa gloire pour lui-même. Mais en fait, on voit que immédiatement, ça se produit par toutes sortes d'autres inclinations. Je suis incliné. Le chien, il a envie de grandir, de jouer, de faire des chiots, etc. Donc il est incliné vers sa propre perfection, il est incliné aussi vers les autres êtres qui participent de sa perfection, et ultimement il est ordonné à la perfection de l'univers, qui est l'objet principal de la volonté de Dieu. Donc vous voyez, cette relation à Dieu, qui est une participation à la fois au Père et au Fils, parce que je suis selon une certaine forme, eh bien, elle est principe d'inclination et donc aussi de relation nouvelle. La relation de création appelle d'autres relations, en fait. Donc, vous voyez, on s'achemine lentement vers la question du rapport entre la substance et la relation. Alors, appliquons ce que je viens de dire à la personne humaine. Donc, j'ai dit, premièrement, toute chose, elle ressemble au Père, elle participe à la propriété du Père par le fait qu'elle existe par elle-même. Alors pour une personne, c'est tout à fait spécifique. Pourquoi ? Parce que mon âme est indestructible. Parce que mon âme est immatérielle, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de la matière pour exister, même si elle existe dans une matière, le corps, mais parce qu'elle ne dépend pas de la matière pour exister, eh ben, elle existe par elle-même. Et donc, elle est indestructible, elle est éternelle, on pourrait dire. Et en ce sens, elle représente ce principe sans principe qui est le Père d'une manière qui est tout à fait spécifique par rapport à un chien qui va laisser la place à un autre chien, mais qui va cesser totalement d'exister. Parce que son âme n'est pas une forme subsistante, c'est-à-dire subsistant en dehors de la matière. Le chien, il donne une matière pour exister. Mais moi, quand je mourrai, eh ben, mon âme, elle continuera à subsister. Voilà. Deuxième chose, donc la créature, elle participe à la propriété du Verbe par le fait qu'elle a une certaine forme. Alors là, vous voyez, donc notre manière d'être particulière, elle s'exprime dans une nature qui est une nature rationnelle. Et donc, en cela, on a une participation en nous qui est spécifique au Verbe. Alors cette participation, elle est d'abord celle de notre âme, puisque l'intelligence et les facultés spirituelles sont les accidents, les propriétés de l'âme. Mais puisque ma nature, c'est pas seulement d'être une âme, mais c'est d'être le composé d'une âme et d'un corps, même si mon corps n'a pas ce même type de relation avec le Verbe, il y participe du fait de mon âme. C'est-à-dire que mon âme est ordonnée au corps, et donc lui communique une part de sa perfection propre. Troisièmement, j'ai dit donc que la créature, elle participe à la troisième personne, l'Esprit-Saint, qu'on peut décrire aussi comme l'amour en Dieu, par le fait qu'elle a une inclination. Alors là, la personne humaine, elle est dotée de toutes sortes de puissances d'action qui l'ordonne à diverses fins. Alors, parmi ces fins, il y en a qui sont communes aux autres animaux. J'ai parlé du chien, donc comme lui, je veux conserver ma vie, je veux me reproduire, même si, en fait, on voit bien qu'on ne le fait pas tout à fait comme le chien, parce que je peux sacrifier ma vie à une cause noble et je me reproduis par le mariage, idéalement, donc c'est quelque chose de plus spirituel. Et puis, donc, il y a des finalités qui sont en moi, auxquelles Dieu m'a ordonné, qui sont là, du coup, propres à une nature rationnelle, donc par exemple l'amitié, en particulier l'amitié politique, la recherche de la vérité, oui, tout ça c'est des finalités qui sont propres à la nature rationnelle. Alors parce que l'homme est rationnel aussi, ces fins, vous voyez, que je viens de nommer, qui sont fixées par sa nature, en fait l'homme est fait pour s'y porter librement. Voilà. Il y a des fins fixées par la nature, mais je les atteins que librement, parce que je suis rationnel. Alors, en agissant bien, en mobilisant ma liberté pour me porter vers de réelles finalités de ma nature, j'acquiers des vertus qui, on pourrait dire, me personnalisent, parce qu'elles me font agir toujours d'une manière qui est plus conforme à ma raison. Voilà, donc cette ordination de la personne humaine, vous voyez, elle est une participation spécifique à la personne de l'Esprit-Saint, parce qu'elle est spécifique par rapport aux autres créatures. Alors, ces spécificités, en fait, elles se manifestent encore davantage en creux. Pourquoi ? Parce que, j'ai dit, par exemple, dans les finalités de ma nature, il y a rechercher la vérité. Mais la vérité, en fait, il y a des vérités avec un petit v, mais les vérités avec un petit v en appellent d'autres. Vous voyez, enfin, vous êtes des scientifiques, donc je ne vous apprends rien. Peut-être ce que je peux vous apprendre, ou en tout cas vous clarifier, c'est que cet appétit de connaître, il ne peut jamais se rassasier en dehors de la vision de Dieu, en fait. C'est-à-dire de la vérité qui explique toutes les vérités, en fait. Seulement, cette vision de Dieu, je ne peux pas l'atteindre par les seules forces de ma nature. Donc il y a ce grand paradoxe dans la nature spirituelle de la personne, que je suis naturellement ordonné à une fin que je ne peux pas atteindre par mes propres forces. Et donc, vous voyez, en creux, ce désir profond que je ne peux pas accomplir par mes seules forces dit le fait que j'ai besoin d'une aide qui vienne de plus haut que moi, donc en fait de Dieu. Voilà. Donc, vous voyez, l'homme, il est fait pour une union immédiate à Dieu et qui ne peut se faire que par la grâce. Et donc, ça, la participation à l'Esprit-Saint se voit de manière particulière, en creux, de cette manière-là. D'autant que, du fait du péché, le péché a tellement à cette conséquence que ma nature est blessée et que, étant blessée, elle est tentée de chercher un bien qui est privé et donc qui est désordonné par rapport au bien commun de l'univers. C'est-à-dire, toute nature est normalement ordonnée vers Dieu, elle est faite pour ça, donc elle est ordonnée vers la perfection de l'univers, mais la nature blessée de l'homme pécheur, en fait, elle est spontanément orientée vers un bien privé qui ne peut pas s'ordonner ni à Dieu, ni au bien de l'univers. On voit bien aujourd'hui le désastre écologique, ça veut dire que l'homme poursuit des appétits privés en fait, qui ne sont pas conformes à la nature voulue par Dieu. Alors le dernier point, j'ai appliqué la question pour montrer comment la personne parmi les créatures participe d'une manière particulière aux personnes divines. Et donc j'ai montré que la un des aspects de la participation à l'Esprit-Saint, c'est ce besoin de la grâce pour s'achever. Alors que fait la grâce ? La grâce, elle est un peu, on l'appelle souvent une nouvelle création, pour dire que c'est une nouvelle action que Dieu seul peut poser. Et elle est le principe de nouvelles relations et d'une nouvelle participation aux personnes divines. Donc la grâce, premièrement, elle unit mon esprit à Dieu par mode d'intelligence. C'est-à-dire, elle me donne une certaine connaissance de Dieu, par exemple la trinité des personnes divines, accessible par la foi. Bon. Si je suis vraiment dans la grâce de Dieu, la foi, elle est aidée par les dons de l'Esprit-Saint, et donc, d'une certaine manière, je fais exister Dieu en moi. Voilà. Alors, ce serait parfait, évidemment, que dans la vision béatifique au ciel. Ce qu'on appelle une union réelle, c'est-à-dire je fais exister Dieu, Dieu vient exister en moi, sous la forme d'une ressemblance. Voilà. Mais la grâce m'unit aussi par mode de volonté. C'est-à-dire, elle me fait tendre vers Dieu. C'est ce qu'on appelle la charité. Et la charité, c'est un amour au sens le plus propre, c'est-à-dire que j'aime l'autre pas seulement pour ce qu'il m'apporte, l'union réelle avec lui, mais pour lui-même, parce que je le considère comme un autre moi-même, en tout cas que je considère son bien comme mon bien propre, en fait. Et ce mode d'union, en fait, il est paradoxalement plus profond, plus élevé que l'union réelle. Pourquoi ? Parce que dans l'union réelle, je fais exister l'autre en moi, je me l'assimile. Dieu vient exister en moi quand je le connais par la foi et les dons de l'Esprit-Saint. Mais quand par la charité, j'aime Dieu, eh bien, d'une certaine manière, c'est moi qui suis en Dieu. C'est ce que dit bien la première épître de Saint Jean, hein, qui dit « Qui demeure dans l'amour, donc l'amour c'est la charité, demeure en Dieu, ça c'est la charité proprement dit, et Dieu demeure en lui, ça c'est l'union réelle de Dieu qui est connue. » Voilà, donc l'union affective de la charité, vous voyez, elle fait participer d'une certaine manière aux personnes divines, parce que elle m'unit par une relation aux personnes divines. Voilà, j'ai des textes que je ne vais pas vous citer parce que je vois qu'il est bientôt l'heure. La charité, vous voyez, elle a d'abord Dieu pour objet, j'aime Dieu pour lui-même. Mais elle n'exclut pas l'amour des autres. C'est ce que le double commandement de l'amour dont parle le Christ, ou donc bien d'autres passages de l'Écriture, hein, celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et voici un passage du Concile Vatican II que j'ai trouvé pour vous, qui dit bien comment l'union affective aux autres personnes humaines est une certaine manifestation de l'union des personnes divines entre elles. C'est Gaudium et Spes, numéro 24. Quand le Seigneur Jésus prie le Père pour que tous soient un comme nous sommes un, il nous suggère qu'il y a une certaine ressemblance entre l'union des personnes divines et celle des fils de Dieu dans la vérité et dans l'amour. Cette ressemblance montre bien que l'homme, seule créature que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut se trouver que dans le don désintéressé de lui-même. Don désintéressé de lui-même, c'est-à-dire j'aime l'autre pour lui-même. Si c'était un amour intéressé, je dirais que ce ne serait pas le don désintéressé de soi-même. Le don désintéressé, c'est le signe de l'amour au sens propre, quand j'aime l'autre pour lui-même. Donc, ce que nous dit le Concile, c'est que quand les hommes s'aiment d'un amour de charité, eh bien, il y a une image de la relation des personnes divines entre elles, et le Concile laisse entendre aussi que la racine de cette charité que les hommes ont les uns pour les autres, c'est que chacun est uni à Dieu par charité, par la vérité et l'amour, dit le Concile. Donc vous voyez, la grâce, elle nous personnalise, on pourrait dire, en créant une nouvelle relation à Dieu qui est suprêmement cette union des personnes par mode d'union affective, où chaque personne considère que le bien de l'autre personne est son bien propre. Alors ça ne remet pas du tout en question le caractère absolu de la personne qu'on découvre par la philosophie et que Boèce dit en disant « la personne, c'est une substance individuelle de nature raisonnable ». Pourquoi ? Premièrement, parce que c'est moi en fait qui me porte vers l'autre. En fait. Pour que je me donne à l'autre, il faut que ce soit moi qui le fasse. Et donc ça suppose que j'existe, que je puisse mobiliser toutes mes puissances. Et c'est pour cela que la grâce s'accompagne des vertus. Les vertus, c'est la capacité de mobiliser toutes ses puissances en vue d'une certaine fin, Et si c'est la fin de la grâce, eh bien, c'est Dieu lui-même. Donc la grâce me communique toutes les vertus, à la fois de mon esprit, mais aussi de mon corps, de l'unité de mon âme et de mon corps, pour aimer Dieu de manière, par le don désintéressé de moi-même, à l'égard de Dieu, et donc à l'égard aussi de mes frères. Voilà, pour terminer, je vous cite un passage de Hans Urs von Balthasar, qui est un théologien du XXe siècle, qui, à ce propos, redit un peu la même chose, parle de personnalisation, en disant « la grâce nous personnalise ». Voilà ce qu'il dit. « Dans le Christ, l'homme créé peut par la grâce devenir ce qu'il appelle une personne théologique, c'est-à-dire un enfant du Père qui, d'une manière qualitativement unique, a reçu part à la mission du Christ, ce qui se réalise par l'inhabitation de l'Esprit-Saint. Tout ce qui est privé disparaît dans ce processus, dans lequel l'homme est désapproprié et réquisitionné pour la vie divine, mais par là aussi pour les décrets divins de salut au sujet du monde. » Oui, déjà, il y a le néologisme personnalisation. Et puis, on voit que la grâce, comment la grâce personnelle achève la personne. D'une part, c'est assez paradoxal, elle singularise. C'est-à-dire que la grâce me donne en propre des dons divins qui sont en fait en vocation à être éternels comme mon propre être. Et en ce sens, je suis vraiment personnalisé. Je suis rendu tout à fait singulier, en fait. Et en même temps, parce que je suis uni à Dieu et à l'Église par l'union affective, Balthasar dit, mais en fait, je suis en fait déprivatisé, en fait. C'est-à-dire que je vois beaucoup plus loin que mon intérêt personnel, je vois l'intérêt divin et donc l'intérêt commun. Voilà. Je vois qu'il est l'heure passée, donc je vais m'arrêter si vous avez des questions. Donc c'est pas une question de sécurité routière, hein. C'est Aristote qui parle de l'accident en disant il y a différents gens, le mot être se dit de plein de manières différentes. Il y a ce qui est par soi, on pourrait dire qu'il appelle la substance. Voilà, chacun entre nous, on est d'une certaine manière par nous-mêmes, mais on voit que cet être que nous sommes se perfectionne de beaucoup de choses en fait. Vous voyez, on parle, on échange, on s'habille, on mange, on grandit. On vieillit. Ça, c'est le domaine de l'accident. C'est-à-dire, c'est, mais c'est par rapport à moi qui suis une substance qui existe par moi-même. Voilà. C'est ça, l'accident.
C'est des compléments à l'être qui le subit.
C'est un être qui inhère dans un autre être qu'on appelle la substance. C'est du Aristote, en fait. C'est Aristote.
C'est clair ou pas? Moi je vais essayer. En gros, l'accident a besoin d'un autre être pour être. Ouais. Donc, par exemple, toi t'es long, moi je suis barbu et chaud, et on voit à chaque fois, ça c'est différents accidents, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que nous sommes chacun par nous-mêmes. Ouais. Ok. Et après, la question que Grégoire soulevait dans le point que tu as dit, au fond, c'est que. Relier la phrase, c'est.
On définit la relation à Dieu comme un accident. C'est-à-dire qu'en fait, on est nous-mêmes et on découvre en surcroît qu'il y a une relation à Dieu qui se rajoute et qui nous fait être plus être.
Voilà, c'est Thomas d'Aquin qui dit regardez, la créature, elle est par elle-même. Et donc, ce qui la relie à Dieu, c'est comme un accident. C'est comme ça qu'il analyse la chose.
C'est quelque chose qu'on découvre en second temps.
Voilà.
Parce qu'on se découvre d'abord humain existant sur Terre et ensuite étant relié au divin.
Voilà ça. Ça, c'est la vision de saint Thomas d'Aquin, qui, du coup, c'est une manière d'assurer au maximum l'autonomie des choses par rapport à Dieu, en fait.
Donc c'est une question de regard de quelqu'un par rapport à quelqu'un d'autre, en fait. C'est comment je vois l'autre, je vois d'abord dans un environnement humain en tant qu'être, puis par derrière, il y a un divin qui relie, et ça, c'est...
Voilà, c'est lié à notre manière de connaître, parce que Dieu ne connaît pas comme ça, par exemple. C'est des questions un peu techniques, je suis désolé. Oui.
Remarque comme une personne qui, comme vous disiez, est un isolé, que personne ne sait définir, et qui apparemment ne se définit que par des relations, alors que lui-même désigne une relation. Personne, c'est le père par rapport au fils, le fils par rapport au père, le Saint-Esprit par rapport au père, le Saint-Esprit par rapport au fils. Et donc, elle-même, la personne se définit mal en elle-même, elle se définit par rapport à la substance. Mais il y a quelque chose qui fait frémir l'antique disant « je suis », qui est que le mot « personne » est appréhendé par hypostase, qui étymologiquement est la même chose que le mot « substance ». Donc quand j'entends une substance en trois hypostases, j'entends une substance en trois substances. Donc il serait bon qu'il y ait un moment où on s'occupe l'un des deux termes, sinon on comprend des choses.
Ouais, c'est Saint Basile au
4e siècle. Et c'est ce qu'un théologien qui a fait la remarque.
C'est Saint Basile au 4e siècle qui a dit qu'il y aura une substance et trois hypostases en Dieu, et on n'en parle plus.
Ouais, voilà. C'est génial. Une substance en trois substances.
Voilà. Mais le concile de Nicée avait dit le contraire 30 ans avant. Voilà.
Parce que pour comprendre bien l'idée de substance, quand on a l'idée de personne, on
de
masque.
De fait, il y a quand même
sous le masque.
Oui, mais il y a quand même une définition qui se fait au fur et à mesure, quand même pour que, au fil du temps, même si au départ les termes, on va avoir des équivalents, effectivement, entre, on sait, en tout cas, entre le passage de la langue latine et la langue grecque. C'est-à-dire les théologiens étaient eux-mêmes conscients que c'était le croisement dans la traduction, mais ils se comprenaient quand ils disaient la chose. Quoi.
Parce que l'idée, c'est que je comprends parfaitement que substance qui est littéralement se tenir dessous puisse avoir un sens par rapport à personne.
C'est-à-dire que même l'hypostase, c'est compliqué. L'hypostase avait un sens, pouvait avoir un sens de substance, et il a été de plus en plus conduit vers le sens d'existence.
Ah oui, d'accord.
Et au départ, il pouvait aussi avoir le sens de substance, même en grec. Et donc, c'est une spécification du sens qui s'est fait au fur et à mesure des clarifications, précisément trinitaires et christologiques. On a été obligé, à un certain moment, en fait, d'aller de plus en plus. C'est pour ça que, par exemple, à Calcétoile, on va dire une hypostase, c'est-à-dire un prosopone. On va mettre en équivalent les deux pour bien dire que l'hypostase est du côté de la personne. Et le oussia va être du côté de mes.
Parce qu'il en a fallu qu'il y ait oussia et essence, et hypostase, évidemment, et personne n'est trop simple.
Là-dessus, si vous voulez toute l'histoire, vous pouvez aller lire un livre de. Je crois que son nom c'est Meunier, qui s'appelle l'hypostase, enfin la personne dans le christianisme ancien. Et là, vous avez tous les va-et-vient dans le détail. Et parfois, on en sort un peu avec. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette rencontre du monde grec et du monde latin qui a posé des problèmes de traduction.
Les mêmes mots ont plusieurs virtualités de sens, en fait. Ils ont une histoire, mais après, l'Église essaie, pour dire sa foi, elle essaie de trouver ce qui peut l'aider dans sa foi. Donc, hypostase, on a de plus en plus manifesté l'aspect individuel, en fait, ce que montrera saint Thomas au sujet de la personne. Oui.
Je voulais
dire
que l'Église a trié la Trinité, il s'appuie particulièrement sur la philosophie d'Aristote. Donc j'ai un peu forcé le trait, mais en gros ma question c'est dans quelle mesure on peut dire qu'Aristote a une place dans l'histoire du salut et de la révélation des hommes.
Déjà, Dieu donc, il n'est pas seulement le rédempteur, il est aussi le créateur. Donc tout ce que Platon ou Aristote ont pu dire intelligent, c'est le verbe de Dieu qui les a illuminés en fait. Donc il n'est pas étonnant que la théologie chrétienne puisse se nourrir de ce qu'ils ont dit en fait, pour exprimer sa foi en fait. Et d'ailleurs, on peut imaginer ce qu'a dit beaucoup le pape Benoît XVI ou Jean-Paul II, que quand le bouddhisme sera chrétien, il enrichira énormément la compréhension de la foi, parce qu'avec des richesses culturelles qui sont inconnues de l'Europe, par exemple. Donc c'est pas du tout étonnant. Voilà. Oui.
Enfin, je trouvais très intéressant le moment où vous avez dit que l'homme ne serait jamais individualisé par la relation, parce que c'est l'essence d'une forme. Moi, vous avez dit que non, c'est une analogie, et que ce qui individualise l'homme, c'est le blâme, le cœur et les autres. Et est-ce que, du coup, dans l'éternité, s'il continuera d'individualiser une personne humaine, enfin un homme, ça continuera d'être son âme, et enfin, ce sera pas aussi la relation de contemplation avec Dieu.
Donc, ce qui est intéressant, c'est que donc la doctrine chrétienne de la personne, elle montre que l'individualité ne s'oppose pas à la relation, mais au contraire qu'elle la présuppose et qu'elle y dispose, en fait. Et donc, c'est la grâce qui porte à son terme cette relation par cette union affective des personnes entre elles. Et donc, effectivement, au ciel, il y aura des personnes pleinement personnalisées, pour parler comme Balthazar, en fait. C'est-à-dire des personnes donc, qui existeront par elles-mêmes, chacune, de manière individuelle, et qui, en même temps, seront unies les unes aux autres par l'union affective.
Ce qui veut dire quand même que le concept de personne vient un petit peu caractériser l'individualité de départ. Et qu'au fond, notre finalité n'est pas une finalité d'abord individuelle, mais une finalité véritablement personnelle.
Aussi ça, voilà. Donc, oui. L'individualité ne dit pas le tout de la personne, mais en tout cas, la distingue, la définit. Quand dans la définition de Boas, substance individuelle, nature raisonnable, il y a nature raisonnable, donc il y a tout le dynamisme de la nature qui est un esprit en fait, et qui est orienté en fait, qui est fait pour Dieu, en fait, qui est fait pour connaître et aimer Dieu. Oui.
J'ai une question que vous avez expliquée à un moment, parce que je vais répondre que l'acte libre était ce qui venait manifester suprêmement le fait qu'il y avait une personne. Est-ce que ça vaut aussi pour les personnes divines, en particulier, est-ce que ça vaut pour l'Esprit Saint, dont on a un peu toujours l'impression qu'il agit sur commande du Père et du Fils?
Alors, ce qui est difficile avec les personnes divines, c'est qu'elles ont même opération, en fait. Tout ce qu'elles font, elles le font de manière parfaitement unie. Voilà. Parce qu'elles sont un même être, voilà, c'est d'où encore la question hypostase, tout ça. C'est là qu'il y a une analogie, c'est-à-dire que quand même la personne divine est tout à fait distincte de la personne créée. Voilà.
Donc quand la liberté divine agit, c'est toujours une liberté.
On pourrait dire que la liberté, quand tout ce que Dieu fait est libre, hein, et même suprêmement libre, mais on pourrait dire que la Trinité est la raison de l'agir libre de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a l'idée d'agir comme ça et le fait? C'est parce que le Père dit le Verbe et ensemble inspire l'Esprit Saint. Donc le pourquoi de l'agir de Dieu qui est tellement libre et créatif, etc., en fait, c'est le mystère des personnes divines. Une fois qu'on a dit ça, on sait qu'on doit le dire, mais on ne le voit pas encore. C'est la récompense des saints au ciel de le voir.
Est-ce qu'il y a une dernière question?
Je crois pas.